Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, débat sur la force de notre contrat social à l'ère des affaires Julien Lacroix et Fred Dubé et aussi l'ère des déboulonnages de statuts. Le Monde d'aujourd'hui, ce nouveau numéro de ce vendredi, avec un débat sur les derniers sujets de l'actualité, des derniers sujets d'actualité qui étaient liés aux différentes affaires d'agressions sexuelles qui ont été un peu déballées dans les médias. Je parle bien sûr des affaires Lacroix et des affaires Dubé, mais ce sont des affaires qui, à mon sens, du fait de leur fonctionnement et du fait de leur rapport lié à différentes choses comme la culture de l'annulation et surtout la force du contrat social, permettent d'être aussi débattues avec les différentes idées comme faut-il déboulonner des statuts, faut-il annuler telle ou telle personne. Et donc pour revenir un peu sur ces différents sujets généraux et comment ça joue sur l'idée qu'on a de société, ben, je voulais discuter avec toi, Philippe Lorange. Alors, on a l'habitude de se voir beaucoup en ce moment, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec toi à la radio, chroniqueur à Cube Radio, maîtrise, auteur, on te voit un peu de plus en plus, tu fais partie de la vie des idées au Québec. Comme dirait Mathieu Boccoté, l'un des jeunes forces de la vie intellectuelle au Québec, ça fait plaisir de te recevoir.
Merci de l'invitation, c'est très gentil.
Et Jean-Philippe Trottier, mon ami et mon collègue à Radio VM, que vous allez pouvoir attendre dans 25 minutes après les nouvelles de Radio Vatican pour son émission Questions d'actualité du vendredi. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Julien.
Donc avec vous deux, on va discuter donc de comment, quelle est votre perception des affaires Dubé-Lacroix et surtout quelle est votre perception par rapport à comment toutes ces affaires, comment ça se déroule, on va dire l'exemple les procès sur les réseaux sociaux, les procès, la charge de l'inversion de la charge de la preuve et surtout la force de tout ce que ça amène au niveau de la culture de l'annulation, comment ça déboule sur la force de notre contrat social et l'idée qu'on a de société collective ou individuelle, est-ce que ça a des bons ou des mauvais côtés. Alors, je vais commencer avec toi Philippe, tu es en studio. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je crois qu'il faut d'abord faire quelques différences entre l'affaire Julien Lacroix et Fred Dubé. Mmh. Bon, l'affaire Lacroix, on sait que c'était cette fameuse étoile montante de l'humour, ouais. Très connue dans les dernières années, qui était dénoncée dans un article du Devoir par 9 femmes qui le dénonçaient sous prétexte d'agression sexuelle. Et puis là, on découvre, ben bon, on sait que la révolution MeToo en 2017, puis dans les années suivantes, en été 2020, il y avait eu beaucoup d'énonciations aussi.
Totalement.
On se rend compte maintenant, puis là, c'est quand même des figures de la presse, donc des figures qui sont pas forcément politiquement correctes, qui vont dire, ben voyez, c'est peut-être allé un peu trop loin. Parce que là, on se rend compte qu'il y a eu peut-être des dénonciations qui n'avaient pas lieu d'être, ou du moins,
totalement.
Qui certes étaient des actes qui sont à dénoncer, qui ne sont pas à encourager aucunement. Mais qui ne mérite quand même pas peut-être la peine de mort sociale.
C'est ça.
Et là, on se rend compte, ben, j'ai l'impression qu'on vit un peu l'après 1793, parce que rappelons-nous que durant la Révolution française, en 1793, il y a eu la terreur. Donc
la révolution était allée trop loin.
C'est ça. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de têtes coupées. Là, j'ai l'impression qu'on vit peut-être un peu le moment 1799. Donc, on réunit la nation en se disant, ben, peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin dans nos idéaux. Dans l'affaire Fred Dubé, ben là, on n'est pas vraiment dans la synthèse, si on veut. Là, on retourne dans l'espèce de terreur révolutionnaire. Dans la mesure où je ne dis pas que Fred Dubé est innocent ou coupable. Je ne peux pas statuer à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu encore de procès, il n'y a pas eu d'accusation comme telle. Il y a eu juste des allégations sur les réseaux sociaux.
Et des allégations qui sont assez intéressantes. Et Jean-Philippe, je voudrais t'entendre sur ça, surtout toi qui as pu écrire et qui as pu beaucoup discuter sur les questions de fragilité masculine, de aussi l'inversion de la charge de la preuve par rapport à la force dans le couple et tous ces éléments-là. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on voyait donc les accusations qui se sont faites. Fred Dubé qui a dit que elles étaient totalement fausses. À côté, plusieurs commentateurs, par exemple Sophie Durocher, qui disait même si Fred Dubé est un connard avec moi, Fred Dubé, il a le droit à la présomption d'innocence. Mais ces accusations, elles avaient plutôt l'air l'utilisation, en fait, de querelles de couple et de querelles personnelles pour salir telle ou telle personne parce qu'on était déçu de son comportement plus que de vraies accusations juridiques. Et donc, ça met en cause un peu la force de notre contrat social où tout est bon pour détruire l'autre.
Il y a de ça, mais moi, ce qui m'intéresse dans ces deux affaires et dans bien d'autres, parce que ça, ce n'est que la pointe d'un iceberg, quels que soient les différents détails, c'est qu'on est dans un climat de victimisation qui fait que quelqu'un s'autoproclame victime sur les réseaux sociaux et tout de suite, on la croit.
C'est ça.
Vous savez, on vous croit sur moi aussi. On a cru beaucoup de monde sans la moindre preuve. Certains greffes étaient certainement fondés, d'autres non. On est rentré. Je pense à cette pièce de Eugène Ionesco qui s'appelle Rhinocéros, qui était sortie, je pense, en 51, si ma mémoire est bonne.
Début des années 50.
Dans les 50 ans, voilà. Et bon, c'était contre le nazisme, évidemment, en toile de fond. Mais là, cette pièce peut s'appliquer à bien d'autres choses. Et la rhinocérite, c'est quoi? C'est-à-dire que il y a une idéologie. Et puisqu'une idéologie, c'est un climat, plutôt qu'une idéologie formulée clairement, un climat qui rend propice certaines idées auxquelles s'implantent et mûrissent très, 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 très vite. Or, ce climat, aujourd'hui, s'appelle victimisation. Et du moment qu'on n'est pas un homme blanc hétérosexuel de culture ou de foi chrétienne, tous ceux qui ne font pas partie de ce que Kipling appelait le fardeau de l'homme blanc en 1899, tous ces gens-là ont voix au chapitre et il est légitime que l'on puisse crier les torts passés, etc. Je comprends, sauf que c'est devenu une question presque métaphysique et on vit dans un climat, pour revenir à UNESCO, c'est un air qu'on respire qui est tout à fait naturel. Et donc, forcément, on est aspiré dans un mouvement qui nous dépasse et sur lequel on n'a plus contrôle. Et quelqu'un qui voudrait juste s'arrêter, réfléchir et dire attendons la présomption d'innocence, justement, attendons de voir ce que Fred Dubé ou les autres ont à raconter, ils sont déjà jugés parce qu'il y a déjà un terreau extrêmement fertile pour ce genre de dénonciation. Imaginez et l'inverse. Imaginez Fred Dubé accusant ses accusatrices. Je ne suis pas sûr que ces thèses ou ça ferait aussi autant florès, notamment dans les médias officiels. Philippe?
Ah ben là-dessus, je suis quand même d'accord les derniers propos, c'est-à-dire que si c'était un homme qui dénonçait des femmes, je suis pas certain que le traitement médiatique serait le même là. Puis justement, on parlait du on vous croit. Mais le on vous croit, on voit bien que lui aussi a un certain double standard parce qu'on le on vous croit lorsque vous dénoncez quelqu'un pour agression sexuelle, mais si vous dites tout à coup que finalement vous avez été un peu manipulé par des journalistes pour offrir une version qui permet de faire scandale, là tout à coup, là on vous croit pas. Puis en fait, on vous explique, on vous psychologise, puis on vous dit que ben en fait, vous avez simplement subi une sorte de choc post-traumatique, puis on essaie de tout psychanalyser comme ça pour dire finalement c'est le patriarcat qui revient dans votre tête, puis là, bon, on essaie de psychologiser.
Est-ce que tu reviendrais pas sur les réactions qu'il y a eu à l'aide de certaines personnes quand, par exemple, des participantes à l'enquête du devoir ont dit qu'elles se sont senties manipulées, elles se sont senties ou un peu utilisées dans leur trauma pour l'enquête du devoir afin de mettre en accusation de manière plus forte Julien Lacroix pour que ça fasse sensation? C'est-à-dire, on expliquait ça dans l'enquête de la presse de Isabelle Hachet et du 98.5 qui est disponible au PK, ce qui est très intéressant à lire et à écouter. Et elle dit ça, et on a eu l'opprobre disant que non, elles vont à l'encontre de la cause. La cause est plus importante que leur trauma personnel.
Donc, voilà.
Et c'est marrant, c'est que quand on dit l'idée de contrat social, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que le contrat social cause, avec une cause individuelle, au lieu de faire société, charge de la preuve importante, présomption d'innocence, il devient en mode, le contrat social devient un contraint d'individualisme à outrance qui doit être porté sur la place publique de manière à remplacer l'idée sociétale et l'idée communautaire.
Mais évidemment, on est dans un pays post-national pour commencer, donc il n'y a plus de groupes. Il y a des groupuscules maintenant, et forcément, ces groupes minoritaires, si vous voulez, ces idéologies-là, trouvent un terreau absolument fantastique. D'ailleurs, ce que vous dites de la cause, Julien, me rappelle une blague communiste. C'est-à-dire que lors de la révolution, évidemment, les bolcheviks, ils n'étaient pas donnés gagnants au départ. C'était surtout les bolcheviks qui l'emportaient, mais bon, ensuite, ça a été l'inverse. À un moment donné, il y a un bolchevik qui harangue une foule et qui dit « Après révolution, tout le monde aura des fraises et de la crème fraîche. » Un tonnerre d'applaudissements dans la salle, évidemment. Et puis, il y en a un bonhomme, un libre-penseur, qui dit « Mais camarade orateur, si on n'aime pas les fraises et la crème fraîche, qu'est-ce qu'on fait ?» L'orateur répond « Camarade objecteur, après la révolution, tout le monde aimait fraises et crème fraîche.
» C'est ça, c'est un peu l'imposition de la pensée, d'une pensée individuelle ou d'une pensée minoritaire qu'on te force à devenir majoritaire. Et donc ça devient un peu, quand on voit un peu ces réactions, et Philippe, ça peut être intéressant, tu en as parlé dans quelques chroniques, c'est l'importance des chambres d'écho, on le voit aussi. L'importance des chambres d'écho, l'utilisation de ces chambres d'écho pour faire croire que l'idée individuelle est une idée majoritaire et une idée commune. Qu'est-ce que tu penses de ça, surtout dans le cadre de ces affaires?
Ce que ça me faisait penser, tantôt, tu disais justement, la cause est plus importante que tout.
Ouais.
Puis ça me fait penser à une expression de Chantal Delsol, que j'aime bien, une philosophe française catholique.
Ouais.
Qui dit, on était à la fin de la chrétienté, selon elle, c'est-à-dire le christianisme fait civilisation. Et l'une des idées fortes du christianisme qu'on ne retrouve pas dans les autres religions ou dans les autres civilisations, c'est l'idée que le vrai prime sur le bien. Tandis que dans toutes les autres civilisations, c'est le bien prime sur le vrai. Puis on voit que c'est dans le dialogue de Platon. Souvent, Socrate fait face à des sophistes qui disent « Mais si je mens, c'est plus efficace dans ma vie. » Alors que Socrate insiste en disant « Non, la vérité est plus importante. » Et donc, le christianisme a repris Platon en faisant une doctrine carrément. Ça, c'est une idée forte qui nous permet de savoir que la vérité est plus importante que la cause. Et donc, on est capable de se rétracter et de dire « Bon, c'est très bien de dénoncer tout ça, c'est très bien de défendre les femmes, de contrer les agressions. » Mais lorsqu'on s'est trompé, il faut savoir se rétracter parce que la quête ultime, c'est la quête de vérité. Mais là, on n'est pas là-dedans. Là, si on est vraiment dans la cause, comme tu dis, ben là, on est vraiment... le bien, c'est le bien sans le vrai. On pense d'abord à la cause, d'abord au bien. Puis ce qui ne correspond pas à ce qui est la vérité, ben on le rejette tout simplement. Comme justement dit Jean-Philippe, le leader communiste qui dit ben tout le monde veut aimer notre dessert, ben on sait que c'est pas vrai. Mais pour le bien de la cause, il faut qu'il y ait une cohérence de l'idéologie. Et donc, on peut pas admettre qu'il y a des faits qui sont tout simplement différents de ce qui est dit par la doctrine. Et moi, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant pour le contrat social, comme tu dis. Parce que le contrat social, c'est des individus libres et indépendants.
Ouais, c'est ça. Et surtout, Jean-Philippe, pour passer la parole, il y a quelque chose d'intéressant. C'est quand on en a parlé beaucoup de fois, je me souviens un peu hors antenne lorsqu'on se croisait au studio. C'est cette idée de voir maintenant cette idée de fait. Les faits ont des opinions maintenant. Ces opinions, drapées de vertu, se deviennent un peu intangibles, extrêmes, absolues, et on doit être imposé. Et ça me fait penser un peu à David Santarossa qui fait son livre sur l'idéologie woke, que un peu je mettrai en relation avec le livre, je ne sais plus l'auteur, est-ce que Jean-Philippe tu pourras me le rappeler, qui affilie l'idéologie woke à une nouvelle religion, à un nouvel évangélisme.
Brandstein,
qui est, le livre est pour l'instant en France, je ne sais pas s'il sera au Québec, mais il est commandable sur Amazon.
Mais je vais vous dire une chose, en 2007, j'ai sorti Le grand mensonge du féminisme, où je mets côte à côte le déclin du catholicisme dans les années 50-60 et la récupération d'image du catholicisme dans le féminisme qui devient essentialiste. On est rentré dans une religion, évidemment, mais je reviens un peu à ce que disait Philippe sur Platon. Il a tout à fait raison, c'est pour Platon, le vrai l'emporte sur le bien. L'inverse de ça, c'est dans le livre 6 de la République où Platon parle du gros animal. C'est pas un très long développement, mais il parle que la société, c'est une masse. Il ne parle pas vraiment de peuple, il parle d'une masse. Et la masse, c'est comme un gros animal qui a déjà ses propres instincts, ses préférences, et qui va guider la masse, qui seront les charitables leaders de ces grandes masses, ce sont des sophistes. Or, les sophistes, maintenant, ce sont beaucoup des gens des médias, des gens des universités, beaucoup d'intellectuels qui sont davantage intéressés par l'idée de caresser le gros animal dans le sens du poil que de dire la vérité. Il y a beaucoup de complaisance dans tous ces milieux-là à l'égard d'un gros animal et forcément, la vérité est la première sacrifiée.
Quand même assez intéressant comme idée.
Oui, c'est vraiment intéressant quand même. Là, je me rappelais pas exactement de ce passage-là, mais non, c'est certain que on sait que Platon c'était quand même un homme qui avait une pensée plus aristocratique. Donc évidemment, il voit le peuple comme la masse ignare et toujours lyncheuse. Et là, on voit que il y a quand même un peu de vrai dans cette analyse-là, comme on le voit en ce moment, c'est-à-dire que nos deux humoristes en question, Fred Dubé et Julien Lacroix, ont vécu la peine de mort sociale en raison d'une foule lyncheuse, c'est-à-dire qui se manifeste sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on sait que c'est dans nos vies de manière très prégnante depuis peut-être une quinzaine d'années, et il n'y a pas encore beaucoup de régulation, on ne sait pas encore très bien comment réguler pour faire en sorte que s'il y a des rapports sociaux un peu plus sains. Donc là, on fait vraiment face à la foule lyncheuse, comme un peu au temps des sorcières ou à la chasse aux sorcières.
Je dirais autre chose, Philippe, si je peux maintenant me permettre, c'est que les réseaux sociaux ne sont qu'un amplificateur. Le péché est déjà là bien avant l'existence des réseaux sociaux. La foule lyncheuse, elle existe dans une paroisse, dans un village, elle existe à l'échelle planétaire, mais vraiment, c'est dans le cœur de chaque homme que le travail doit être fait.
Absolument, oui, c'est sûr.
Et l'idée de foule lyncheuse, elle existe. Tu parlais de Platon à une vision aristocratique de la démocratie et de la République, mais c'est tous ces éléments-là, cette vision aristocratique a toujours quand même été essayée d'être reproduite à tous les débuts de système démocratique, car on avait peur de l'idée de foule, l'idée d'opinion. Quand on dit l'opinion, la grande masse qui crée l'opinion, on sait que majoritairement, cette grande masse, lorsqu'on crée le contrat social, lorsqu'on l'entoure de droits, mais surtout de devoirs, on met des devoirs souvent liés aux droits, en grande partie parce qu'on veut faire en sorte que l'opinion opinion évite d'aller dans ces mauvais côtés qui sont la plupart du temps lyncherie, qui est lynchage, je veux dire, qui sont des éléments négatifs, tribaux, et on le voit en ce moment avec le retour d'un tribalisme politique où l'idée d'être de centre, centre-gauche, centre-droite, c'est faux, il faut qu'on soit à un extrême, la droite, un extrême, l'extrême-gauche, mais on ne peut pas être au milieu. Et se faire dire si on est au milieu, c'est nous ne sommes pas des alliés, on a un mauvais discours, en fait, tu es l'autre extrême parce que tu te dis comme ça, mais ton affiliation politique, il suffit d'aller voir avec qui tu traînes, qui tu parles. Il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus de discernement. Mais ça, c'est une question assez intéressante, Jean-Philippe, l'idée de discernement. On en parle souvent avec certains de nos amis, c'est de voir, nos amis communs, c'est de voir c'est que l'idée d'opinion, l'idée de les faits ont des opinions, l'idée d'individualisme à outrance, c'est la disparition de la rigueur et du discernement.
Et parce que on confond discernement et jugement. Ah. Alors, on dit, il faut surtout pas juger. Au Québec, il faut surtout pas juger parce que quand on juge, on a des préjugés forcément. Mm. Et ce sont des stéréotypes et le Québec est une société qui n'en finit jamais de déboulonner des tabous et elle en inventera d'autres au besoin pour continuer son cirque. Mais le discernement, c'est autre chose. Le discernement, ça a rapport avec la critique. La critique, ça a rapport avec ce qu'on appelle krinein en grec, c'est-à-dire discerner et plus primitivement digérer. Il faut savoir digérer les faits et savoir les ordonner, les placer dans un tout, dans une unité. Mmh. Or, nous vivons dans l'ère de la glorification de la multiplicité, ce qui fait que le pire et le vrai se côtoient et il n'y a aucune
barrière.
Hiérarchie. Ouais. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune hiérarchie. Toi, tu penses comme ci, ben, je te respecte, moi je pense comme ça, respecte-moi. Mm. Donc il n'y a plus du tout de jugement, partant il n'y a plus de discernement. La vérité, on revient à cette idée, est la première victime de tout cela et on espère que tout on oublie également l'idée d'harmonie sociale, on est dans un équilibre. Or, l'équilibre est un rapport de force. Une harmonie suggère une verticalité vers une unité. Mmh. Or, tout cela est complètement inaudible de nos jours, et donc toutes ces idéologies de victimisation prolifèrent dans un terreau absolument magnifiquement fécond.
Et donc, Philippe, ça mène à la question suivante pour toi, et si tu pourras au moins l'utiliser peut-être pour ta réflexion, c'est est-ce que si la victimisation est élevée à ce point-là, au niveau des pensées sociales, est-ce que en fait la fragilité est élevée au rang d'art?
Oui. Mais c'est-à-dire que oui, on est vraiment dans la victimisation, alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, en Occident, on était plus dans l'idée qu'on défendait l'honneur. Et donc, l'honneur, ça se défend par, les actions chevaleresques, si on veut, ou par les efforts. Donc, on doit se valoriser par le fait qu'on fait des accomplissements et par le fait qu'on fait preuve de courage, de témérité. Parce que là, on est vraiment dans l'idée que j'ai subi quelque chose, puis là, il faut que je dénonce, puis c'est mon identité première. Puis, ce qui m'intéresse beaucoup, dans toutes les questions de la cancel culture, puis aussi, tu parlais des chambre d'écho, c'est que ça me fait penser à beaucoup de propos de Milan Kundera qui disait, dans les années 80, on s'appelle son... il avait écrit un fameux article dans lequel il disait il y a un effondrement de la culture en Occident, en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, de telle sorte que si la culture n'est pas là pour servir de digue, si on veut, à la foule lyncheuse, parce que la culture, c'est là pour justement cultiver. C'est le raisonnement critique, le discernement.
Créer l'idée d'un socle commun qui protège la société aussi.
Mais entre autres, c'est ça, les grands artistes, les grands intellectuels, les penseurs, c'est des gens qui ont plus de discernement, ou du moins qui cultivent le discernement, qui l'encouragent, au lieu de juste proposer les grandes idéologies simplificatrices, les grandes idées simples. Donc, s'il y a un effondrement de la culture, ben, qu'est-ce qui vient prendre place? Ben, Kundera, ce qu'il voyait, lui, c'était un peu l'abrutissement collectif. Mm. C'est-à-dire, le divertissement, c'est purement les choses qui... C'est ça, on est purement dans le divertissement qui critise, finalement. Mm. Donc, qu'est-ce qui reste pour la masse si elle n'est pas là pour essayer de se cultiver, essayer de penser? Ben, tout ce qui lui reste, c'est des idéologies simples qui reviennent en force, qui sont pas les mêmes d'autrefois. On n'est pas du retour au fascisme, au nazisme, au communisme. Mais c'est un peu on peut voir des réincarnations avec un peu des mêmes schèmes de pensée, si on veut. Là. Mm. Puis c'est à ça qu'on assiste notamment avec la cancel culture. Ouais. Tu disais tout à l'heure, on ne valorise plus centre-gauche, centre-droite, centre.
Ouais.
Bon, de manière générale, les Québécois sont quand même des gens modérés malgré tout. Mais parmi ceux qui aiment lyncher, qui sont dans la classe journalistique, il y en a beaucoup qui sont vraiment aux extrêmes. Puis très souvent, c'est extrême gauche. Puis si on est moindrement centre-gauche, centre, centre-droite, ben là, c'est vraiment, vous êtes dans le camp fasciste. Mm. Puis il n'y a aucun salut possible, à moins de faire vraiment pénitence sur la place publique.
L'exemple parfait, je vais prendre notre collègue Mathieu Bocoté, qui fait une entrevue avec Éric Zemmour la semaine dernière, où il se fait lyncher car il n'a pas été assez dur avec Zemmour, il a été trop complaisant. Néanmoins, est-ce que c'était son rôle? Car dans le cadre de son émission, il doit faire des entrevues de journalistes. Est-ce qu'un journaliste doit être juge? Et donc, ça emmène à les questions où on voit certains journalistes qui se permettent d'être juges, des journalistes qui même se demandent le droit de pouvoir devenir militants. Et donc, à la fin, c'est qu'est-ce qui va se passer si un journaliste qui est militant, par exemple, et pourtant on sait que je suis quand même assez environnementaliste, je viens de ce milieu et tout ça, protection de l'environnement, mais je ne vais pas montrer que je vais être extrêmement militant dans mon travail. Il faut un minimum d'objectivité pour pouvoir aller interroger le patron du pétrole et opposer son idée aux idées, par exemple, de l'Oxfam Québec ou des autres éléments comme ça. C'est comme ça que marche le débat. Un militant, à la fin, qu'est-ce que l'autre va dire ? Oh non, j'ai pas envie de parler avec vous. Ça, il va avoir un biais tellement dégueulasse que l'article en ressortira faible à la fin. Et maintenant, des journalistes veulent avoir ce droit-là de manière à, je sais pas pourquoi. Il y a une question individuelle, vouloir promulguer leur carrière, mais aussi une question de le militantisme, donc l'individualisme à outrance, doit primer sur l'information de la collectivité. Ça, c'est assez problématique. Jean-Philippe ?
Absolument. Un journaliste, c'est en fait un accoucheur. Évidemment, on va le jupon. Je ne crois pas du tout dans la neutralité ou l'objectivité totale. Il faut
un minimum de jupon.
Il faut étendre. Il faut comme une certaine déontologie. Évidemment, si j'interviewe un copain, ça devient. C'est pour ça que le vouvoiement pour moi est très important. C'est une distance. Il faut quand même mettre les formes. Une entrevue, c'est comme un. On joue au Monopoly, on joue aux cartes, on joue au bridge. Il y a des règles à suivre quand même. Personnellement, ce que j'aime, c'est être l'avocat du diable. Non pas pour coincer l'invité, mais pour rendre justice à sa pensée. Quand on fait chorus avec l'invité, on va pas très loin avec ça. Alors que quand on contredit ou on soulève des objections, ça force l'invité à approfondir. Et cette formule de Saint Paul qui est très belle, Saint Paul, l'apôtre qui dit, pas l'apôtre, pardon, Saint Paul, voilà, vous vous connaissez, qui dit « Oportet haereses esse », il est important, il faut qu'il y ait des hérétiques. Je ne dis pas que l'invité ou le journaliste est un hérétique, mais l'hérésie permet à la doctrine première de s'affermir, de se préciser, de s'approfondir et de se renseigner davantage dans une vérité. Une contradiction, tant qu'elle n'est pas simplement frontale et idiote, permet de dire comme la thèse, l'antithèse, qui demande une synthèse, mais à un autre niveau ontologique supérieur. Il faut faire ça, sinon on est dans le... On est encore une fois dans une chambre d'écho magnifiée parce qu'on a un micro entendu par plein de
monde. Moi, ce que je trouve inquiétant, justement, avec les chambres d'écho, c'est que, par exemple, je me permets de faire une petite notice biographique, c'est qu'il y a quelques années encore, par exemple, quand j'étais au cégep, j'avais créé le club politique. Puis j'aimais ça parler avec des jeunes qui étaient QS, d'autres qui étaient Parti Vert, Parti Libéral. Il y avait des jeunes de toutes sortes de camps. Moi, j'étais évidemment le souverainiste, déjà conservateur. Puis bon, je faisais face à des jeunes qui étaient très souvent, qui avaient plusieurs désaccords avec moi. Et donc, on était capable d'avoir un dialogue, quand même. C'est à Sainte où j'allais, c'était quand même pas très militant. Et donc, bon, à l'Université de Montréal, c'est la même chose. J'aimais ça de dialoguer avec des gens qui étaient plus pro-Mélenchon, puis bon, tout ça. Mais là, avec le temps, je me rends compte, depuis que je suis entré à l'UQAM il y a un an, je me rappelle, il y a bientôt 3 ans, j'avais lancé un manifeste contre le dogmatisme universitaire. Puis s'en était suivi des réactions très fortes, même de gens que je connaissais, des connaissances, qui vont linge sur la place publique, carrément. Et par la suite, au fil des années, il y a toutes sortes d'autres personnes qui vont vraiment dans le lynchage, dans l'insulte. Puis quand on lit dans les journaux, on sait qu'à l'UQAM, il y a toutes sortes de militants qui vont faire du saccage dans des locaux. Puis bon, là, en classe, évidemment, si on apporte une idée qui est autre, là, on n'est pas vu comme quelqu'un qui est un peu dérangeant. Là, on est vu comme carrément, quasiment comme un ennemi moral. Puis là, on se dit, moi qui ai toujours aimé le dialogue, qui ai toujours aimé parler avec des gens de toutes les tendances, que ce soit droite, gauche, extrême gauche, j'aimais ça avec des
gens... Et le dialogue est-il encore possible?
C'est ça. Là, je pense que le dialogue est de moins en moins possible. Du moins, moi, qui était pourtant très ouvert au dialogue il y a encore peu de temps, ça, j'ai de moins en moins le goût de parler à des gens woke. Parce que je sais que c'est des gens qui ne sont plus dans l'idée de dialogue, ils sont vraiment dans l'idée d'un monologue, donc d'un dogme qui a toujours raison. Puis c'est quand même inquiétant parce que même les premiers, c'est-à-dire dogmatiques, je l'ai dit, parce qu'on parlait justement de Saint-Paul, voulaient quand même tester le dogme vis-à-vis des hérétiques pour mieux le réaffirmer. Comme justement pour trouver la synthèse qui est supérieure. Mais là, chez les woke, on n'est plus là-dedans. Là, on se renferme dans le safe space. Puis c'est comme si on descend aux enfers plutôt.
Et deux choses, il nous reste 2-3 minutes pour l'émission. La première chose, avant de te passer la parole, Jean-Philippe, pour assez rapidement, ça serait sur la question de dialogue et sur la question de dialogue culturel et dialogue d'actualité. Il y a quelque chose que j'ai toujours apprécié, par exemple, surtout dans le débat en France, c'était la manière de vouloir exposer, par exemple, ce qu'on disait des cerveaux malades. Et se dire, on avait l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais, qui était excellente sur ce sujet, qui était, on expose ce genre de cerveau, on permet un dialogue, mais en gros, vous allez vous faire votre propre idée et vous allez pouvoir vous rendre compte compte, sans qu'on vous force à vous en rendre compte, que peut-être leurs idées sont assez extrêmes, qu'il faut savoir raisonner, savoir avoir du discernement quand on traite de ce genre d'idées, de ce genre de personnes. Et la deuxième question sur le dialogue, ça amène à retour sur la culture d'annulation, surtout avec la question des statuts, c'est qu'on voit que le dialogue par rapport, surtout lié au rapport à l'histoire, on se dit non mais peut-être que ça va trop loin, le rapport à l'histoire, ça met en place, ça met en danger le rapport à l'histoire, donc notre rapport à la société, donc notre contrat social. Quand on va exposer ce genre d'idées, on se met mettre sur la place publique, on dit oui mais il faut penser qu'à l'époque il a été monstrueux, oui mais à l'époque ils l'étaient tous. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait plus écouter du Wagner parce que Wagner a inspiré Adolf Hitler avec sa pensée? Non, Wagner a fait probablement une des plus grandes musiques de l'histoire, c'était un fou, mais sa musique était à part. Et donc ce rapport à l'histoire et cette nécessité de prendre des pincettes lorsqu'on analyse l'histoire par rapport à une vision actuelle des choses, elle est quand même assez importante quand on parle de culture d'annulation, quand on parle de rapport à la société. Et l'idée des statuts, pour en terminer sur ce point-là, était quand même assez intéressante dans le débat actuel. Et aussi, ça permet aussi un peu de discuter de l'idée de tout ce qui était par rapport à la culture du viol, agression sexuelle, telle qu'on a pu le voir avec les affaires du Bélacroix. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe, assez rapidement, une petite minute.
Je pense tout le temps à cette phrase attribuée au poète français du XVIe siècle, Jean de Santel, qui dit « Castigat ridendo mores ». C'est en riant qu'on peut modifier les mœurs. Molière a bâti toute son œuvre là-dessus. Évidemment, vous lisez l'école des femmes, par exemple, ou le Tartuffe. Il y a plusieurs angles à ça, mais c'est un rigolo. Et justement, Molière c'est l'esprit anti-idéologique par l'humour. Or, une idéologie ne sait jamais rigoler. Une idéologie, elle est lourde et pesante et collante. Il faut un peu de légèreté et il faut savoir rire de des conneries qu'on peut entendre ici et là. Ça ne va pas sauver un Julien Lacroix ou un Fred Dupé, mais il s'agit, et les intellectuels devraient avoir un peu plus de courage là-dedans pour essayer de rire de ce qui se passe au lieu de prendre la même pesanteur que l'idéologie qu'ils combattent. Il faut y aller comme dans les arts martiaux, il faut désamorcer la charge négative qui transporte ces idéologies.
Philippe, ta conclusion, une petite minute.
Moi, je trouve ça intéressant qu'on parle du rire, parce que précisément, on se rend compte qu'en fait, la nouvelle idéologie woke, en fait, elle rit beaucoup souvent, mais elle ne rit pas d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle va rire, par exemple, du christianisme. Elle va rire, du patriarcat. Mais tout ça, Donc, on va tourner en dérision tout ce qu'a fait l'Occident, tout ce qu'a fait, les hommes, tout ça. Puis, mais c'est une dérision qui n'est pas, qui n'est pas légère, là. C'est-à-dire que c'est très lourd. Puis, il faut absolument adhérer à ce rire-là. C'est-à-dire, c'est un rire cadencé.
C'est ça, c'est un peu le rire, c'est comme Kim Jong-un en Corée du Nord, où si tu ris pas, tu vas au goulag.
Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, j'ai envie de dire que c'est un rire qui est vraiment destructeur et qui n'est pas le bon rire de Molière, justement, parce qu'on sait que ceux qui sont de vrais avant-gardistes de leur époque, ils vont se permettre de rire du dogme. Mais si on attaque les woke en riant un petit peu d'eux, eux, ils n'ont pas de sens de l'humour. Donc, cette distinction-là, je trouve importante de faire entre, justement, la dérision terrifiante, si j'ose dire, des woke et la vraie dérision qui permet d'attaquer les dogmes.
Absolument.
C'était très intéressant comme discussion. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'émission. Philippe Lorange, on peut t'écouter sur Cube Radio tous les jeudis. On peut aussi te lire dans différents médias, dans l'Action Nationale de temps en temps aussi, qui est une excellente revue que j'appelle tout le monde à acheter et à supporter. Et on peut aussi attendre tous tes prochains essais qui seront, comme d'habitude, extrêmement intéressants.
Merci beaucoup.
Et Jean-Philippe, on se retrouve dans 20 minutes environ après les nouvelles de Radio Vatican pour ton émission Question d'actualité. On se retrouve aussi toutes les semaines, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour Questions d'actualité. Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci, Julien.
Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Merci à vous, bonne fin de semaine.